Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 10. On dormit tard le lendemain au Fresnay, et le gros porte-bise dormit mal et à peine quelques heures, tellement qu'au réveil, sa barbe faite, il sortit pour prendre l'air et dissiper ce qui restait encore en lui de ce mauvais sommeil. Quittant l'hôtellerie où il logeait et qu'il avait préféré pour sa part au gîte plus moelleux dont les autres officiers avaient accepté les offres et les aises, il prit une des rues qui menait vers la promenade. Elle était déserte à peu près et les rares passants qui la traversaient ne troublaient ni sa méditation ni sa mauvaise humeur. L'une finit, l'autre durait encore et, à la manœuvre où il dut se rendre, elle se manifesta par une sévérité bougonne, de solides jurons ou la canne levée sur le dos des maladroits qui ne se montrait point assez prompte à chausser l'étrier ou à tirer sur le mort. La raison de son mécontentement était moins dans les fautes du service ou dans les fatigues de la nuit que dans l'impression fâcheuse qu'il avait ressentie devant son miroir, tandis que le frater lui faisait la barre. Porte-Bise, d'ordinaire, oubliait volontiers son âge. Il était de forte santé et de bon appétit et sans aucune incommodité de corps. Mais ce poil qui lui poussait au menton, tout rude et déjà gris, l'avertissait au matin qu'il n'avait plus 20 ans. La plupart du temps, il ne prenait pas garde à cet avis. Mais aujourd'hui, il ne s'y sentait pas indifférent et il fit une amère grimace à l'insolent petit miroir qui opposait à ses prétentions un visage qui ne les justifiait plus. Il s'y voyait, la face large et rougeâtre, les paupières plissées, la bouche alourdie, le menton empâté. Il ne lui restait véritablement de toute sa figure d'autrefois que le feu vif des yeux, la belle et hardie courbe du nez et la forte carrure du front. Une fois debout, tout cela composait un ensemble encore passable, car il portait bien sa corpulence, mais il regrettait tout de même son visage passé dont jadis il avait fait tant d'usage et que tant d'usage avait rendu ce qu'il était. D'ordinaire, ses pensées l'occupaient peu, et s'il songeait aujourd'hui aux inconvénients de l'âge mûr, c'est que toutes les grâces de la jeunesse lui étaient apparues la veille au soir en la personne de Mademoiselle de Mauceuil. Non pourtant que le gros homme se sentît amoureux. Il avait déjà depuis longtemps renoncé à l'amour pour le plaisir, et le plus souvent, la débauche lui tenait lieu de l'un et de l'autre. Mais il éprouvait pour Julie un vif intérêt et n'aurait point été fâché de l'intéresser à son tour, peut-être simplement parce que tout le monde s'intéressait à elle. Monsieur de Vidrecourt, le colonel, n'en tarissait pas, et pendant plusieurs jours, il ne fut bruit à la ville que de la surprenante beauté de Mademoiselle de Mauceuil, si bien que si Madame de Galando et Nicolas eussent vécu moins retirés de tout et de chacun, ils auraient pu en apprendre quelque chose. Les Dufresnay non plus ne se doutaient guère de cette rumeur. Ils avaient repris leur train ordinaire, mais Julie était restée comme transformée. Une gaieté charmante l'habitait maintenant. Il semblait que cette soirée de lumière et de danse l'eût illuminée et animée d'une vie nouvelle. Elle descendait les escaliers en tourbillon, riait à tout propos et chantait à pleine voix. Monsieur Dufresnay, du pavillon de musique où, tout guilleret, il exécutait sur son violon les airs les plus alertes de son répertoire, la voyait aller et venir dans le jardin avec une marche légère et comme envolée. Elle se baissait, cueillait une fleur, la respirait longuement et, avec coquetterie, lui cherchait une place à son corsage ou dans ses cheveux. Elle était délicieuse à voir ainsi. Attentive et hésitante, puis, satisfaite, elle pirouettait et disparaissait derrière la charmille. L'honnête monsieur Dufresnay, qui s'était interrompu de jouer, reprenait son archer, puis, sans raison, se mettait à rire tout seul, de telle sorte que les vitres du pavillon en tintaient, car cet homme fin avait le rire facilement gros et comme tout épanoui de bienveillance et de bonté. Madame Dufresnay était ravie elle aussi de cet heureux changement. Belle et charmante dans sa jeunesse, elle aimait la beauté et la jeunesse des autres. Il lui restait des siennes une maturité douillette et douce. Son visage avait conservé ses jolis traits d'autrefois et un fard habile conservait à ses joues les couleurs qui y fleurissaient jadis. Elle était comme son propre pastel, ressemblant, et d'une chair délicate et poudreuse. La beauté inattendue de Julie ébahissait Madame Dufresnay. Elle ne se lassait pas de la regarder et, 10 fois par jour, prise du désir de la voir, elle la cherchait au jardin ou dans la maison et montait jusqu'à sa chambre pour savoir si elle ne s'y trouvait pas. Monsieur Dufresnay, avec qui sa femme riait de cette sorte d'agitation joyeuse où vivait maintenant Julie, avait remarqué fort subtilement que le plus haut point en coïncidait assez régulièrement avec les heures où le gros porte-bise se montrait au château. De ses anciennes relations avec Monsieur Dufresnay et de la part qu'il avait prise avec tant d'empressement à l'organisation du bal, s'était ensuivie une sorte d'intimité entre les Dufresnay et lui. On tenait prêt son couvert et il restait à souper sans façon, car souvent il arrivait dès l'après-midi et passait là presque toute sa journée. Par une assez adroite franchise, il avait déclaré à M. et Mme Dufresnay son admiration pour Julie, proclamant n'avoir jamais vu plus joli visage, tant de fraîcheur et de grâce, leur rapportant les propos qu'on en tenait à la ville, y ajoutant ses propres louanges, avec grand soin de surenchérir assez sur ce qu'on pouvait dire pour donner à ses éloges un ton d'exagération plaisante, un air de jeu et de badinage qui lui permettait de se prétendre amoureux de Mademoiselle de Mousseuil sans qu'on y pût penser rien de sérieux ni le prendre autrement que comme un divertissement sans portée et sans conséquence. Monsieur Dufresnay, homme simple et sans malice, se laissa tromper à ce manège de fausse bonhomie et se prêta à ce qu'il considérait comme un enfantillage. Il ne pouvait se mettre en tête que M. Portebise, déjà sur l'âge, perdu de jeu et de réputation douteuse, mais bon diable au fond, prétendit à quoi que ce fût qui dépassât les bornes d'une galanterie amicale avec Julie, dont il aurait pu aisément être le père. Quant à Mme Dufresnay, voyant Julie amusée des assiduités et des compliments de l'officier, elle y prêta les mains volontiers. Le mari et la femme furent donc de moitié dans cette imprudence. Ils étaient bonnes gens, faciles et gais, et ne soupçonnèrent et ne prévirent rien des dangers de cette comédie. Aussi fournirent-ils à Portebise toutes les occasions d'approcher Julie à son gré. Le premier usage que Julie fit d'elle-même fut la coquetterie, et ce fut, pour dire vrai, cette disposition de la jeune fille qui régla celle de Portebise et encouragea ses visées. Il avait commencé par venir au Fresnay sans but précis et pour se distraire de l'ennui qu'il éprouvait à la monotonie du métier et au peu de ressources qu'il trouvait à la ville pour ses habitudes et du peu de moyens de les y satisfaire, même tant bien que mal, car en ce moment il était complètement à sec et au plus bas dans ses affaires. Le séjour du Fresnay venait donc fort à point. La table était bonne, les hôtes accueillants, et la présence d'une jolie fille y ajoutait une sorte d'intérêt dont, en y pensant, il ne s'expliquait pas bien la nature, mais dont il ressentait l'effet. Bientôt pourtant, et peu à peu, il entrevit, à ce qu'il considérait lui aussi peut-être tout d'abord comme un badinage, un tournant et un avenir inattendu, et il mit dès lors tous ses soins à bien jouer une partie où, s'il n'avait rien à gagner, il n'avait au moins rien à perdre. La vérité, d'autre part, et que Julie, étourdie et naïve, ne vit à tout cela que l'agrément d'être louée, et elle s'y prêta avec ce goût naturel aux femmes pour se savoir admirer et se l'entendre dire. Mais son partenaire, qui était hardi et corrompu, entendait bien sous le couvert d'un jeu innocent mener la chose aussi loin que possible, du moment qu'il y croyait apercevoir quelque chance de tourner en aventure, ce qui, au début, n'avait été que l'agacerie ignorante d'une fillette sensible aux soins du seul homme qui fut à même de lui en rendre. Après les premières approches, Portebise se mit en mesure d'agir, mais il s'aperçut bientôt qu'il employait un langage dont Julie, fort innocente et nullement instruite, ne comprenait guère les allusions. Portebise était habitué à parler à des femmes ou à des filles familières avec l'amour. Mais Julie, elle, ne savait rien. Avant de la séduire, il la fallait mettre en état d'être séduite. Restait la surprise ou l'occasion. Il n'était point homme à n'en pas user, mais avec une personne aussi neuve que Julie, il en sentait le risque. Il y avait bien en elle une certaine disposition à la volupté qui se manifestait en ses gestes et en ses façons par une sorte d'indécence charmante et toute naturelle. Julie donnait l'idée du plaisir, mais il était incertain qu'elle en ressentît l'attrait ou le désir et qu'elle en accepterait les audaces nécessaires. Portebise prit donc le seul parti qui lui demeura. Ne pouvant compter pour s'attirer Julie ni sur son âge ni sur sa mine, car il était peu probable qu'elle éprouvât jamais pour lui un de ces sentiments involontaires et passionnés qui font des inconnus de la veille les amants du lendemain, il n'avait guère à compter que sur les imprudences de la coquetterie et les curiosités de l'innocence, et il se mit en devoir de les éveiller et les provoquer. C'est à cela qu'assistèrent, sans s'en douter, Monsieur et Madame Dufresnay. Monsieur Dufresnay voyait du pavillon de musique Julie et son galant se promener au jardin ou disparaître derrière la charmille. Madame Dufresnay leur servait à goûter ses tartes les plus parfaites et ses sucreries les plus appétissantes et les laissait en tête à tête, les coudes sur la table, devant les corbeilles et les jattes, causer en toute liberté. Le soir, au salon, ils s'installaient derrière un paravent. Monsieur Dufresnay sommeillait à demi en feuilletant quelques cahiers de musique. Madame Dufresnay s'endormait à moitié sur quelque ouvrage. Le rire clair de Julie ou la forte gaieté de Portebise les réveillait de temps à autre et ils se félicitaient du regard, avec de petits signes de contentement, de voir ainsi Julie joyeuse, gaie et occupée. Une fois Portebise parti, aux bougies, en montant se coucher, on ne tarissait pas en louange sur celui qu'on appelait dans la maison, du sobriquet familier, de Gros Ami. Gros Ami n'avait point en lui l'étoffe d'un amant transi et langoureux. De ceux qui soupirent, implorent, supplient, se lamentent, il avait la corruption large et active. Il discourait peu de sentiments et ne se perdait guère en subtilité. Bien au contraire, net et salé, presque cru même, si bien que par lui, Julie se familiarisait moins avec les vapeurs de l'amour qu'avec ses réalités. L'élève faisait de grands et rapides progrès. Gros Ami y allait franchement et cyniquement et, en peu de temps, en fut assez loin pour qu'il pût aider son enseignement oral de contes grivois et libertins qu'il glissait en cachette à Julie et dont il possédait, en son porte-manteau, tout un assortiment. Le singulier, c'est qu'il ne cherchait pas à mettre en pratique avec elle ce qu'il lui apprenait par ses voies diverses. Il avait son idée particulière de l'amour et en exigeait beaucoup. Il voulait de lui tout en une fois. La petite oie le tentait peu et il ne se trouvait ni d'un âge à se contenter de privautés d'écolier, ni d'un tempérament à s'amuser de manigances de barbon. Entre-temps, Julie feuilletait d'un doigt agile les brochures dont la fournissait Gros Ami. Le soir, dans son lit, elle en tournait les pages furtives. La bougie brûlait tard dans la nuit et elle s'endormait, l'esprit caressé d'images voluptueuses. Elle apprenait ainsi les bons tours dont on pipe les tuteurs et les maris. Le verrou mis ou enlevé, les déguisements et les mascarades, les mille friponneries de l'amour, les intrigues où il se plaît, les rendez-vous et les ruses, le hardi et le clandestin du plaisir, le détail des petites maisons et le récit des petits soupers, tout ce que l'invention galante imagine pour aiguiser et faciliter le désir. Livres folâtres, livres ou polissons dont Portebise lui commentait ensuite l'indécence en l'agrémentant d'anecdotes personnelles, en l'assaisonnant de sa verve hardie et facétieuse, singulière leçon où se mêlait du libertinage et de la gaieté qui rendait Julie rêveuse ou la faisait rire aux éclats et dont l'excellent M. Dufresnay prenait les apartés pour l'innocente idylle d'une fillette et d'un vieux garçon désœuvré, bonhomme au fond malgré son passé de brelandier et de coureur de filles. Cependant, les jours passaient et Gros Ami commençait à s'impatienter. Il résolut donc d'aider Julie à se mieux représenter tout ce dont il lui avait farci l'esprit et de mettre sous ses yeux la figure même de ses pensées. Aux livres qu'il lui prêtait en cachette succédèrent des gravures qu'il lui apportait en secret. Il avait un portefeuille assez bien garni de pièces de toutes sortes qui allaient du galant à l'érotique, des manèges de la coquetterie aux pratiques du plaisir. Il les fit voir une à une à Julie. Il s'était procuré de plus grandes facilités en venant s'installer au Fresnay même et comptait profiter de la familiarité du même toit. Enfin, il s'était déclaré ouvertement à Julie, qui maintenant comprenait fort bien ce qu'il voulait. Il lui avait proposé le plaisir en lui promettant le secret. La scène eut lieu dans la charmille. Le gros porte-bise fit bien les choses, mit le genou en terre, déclara sa flamme, fut pressant et passionné. Julie le laissa dire. On entendait dans le pavillon de musique le violon de Monsieur Dufresnay. L'air était doux et chaud. Mademoiselle de Mauceuil portait au corsage une belle rose qu'un geste trop vif de porte-bise effeuilla à demi. Julie, avec une révérence moqueuse, s'esquiva de l'embuscade en riant à grands éclats, et Gros Ami se releva furieux et dépité, d'autant plus que le temps approchait où Julie devait retourner chez Madame de Galando. Ce fut pourtant Porte-bise qui partit le premier. Quelques jours après la scène du Bosquet, le régiment du Royal Lorraine reçut l'ordre de lever le camp et de quitter ses quartiers. Porte-bise fut enragé de ce contre-temps qui, d'un coup, mettait fin à ses projets. Il maugréait et jurait en bouclant son bagage. Regrettant non point la dangereuse semence dont il avait infecté ce jeune esprit, mais bien plutôt le soin malencontreux qu'il avait pris de si bien avoir préparé Julie à l'amour et que d'autres dussent sans doute en recueillir le fruit. Le carrosse qui emmenait Mademoiselle de Mauceuil chez Madame de Galando se mit juste en route le matin même où le Royal Lorraine se mettait en marche, de telle sorte qu'à une croisée de route, on rencontra le régiment. Il fallut donc attendre qu'il fût passé pour continuer le voyage. Les escadrons faisaient grand bruit dans la campagne matinale. Les timbaliers alternaient avec les fifres et les trompettes. Le pas sec des chevaux sonnait sur les cailloux. Parfois, une des juments hennissait à l'un des gros percherons du carrosse. Le colonel, qui avait reconnu M. Dufresnay, le vint saluer à la portière. M. de Videcourt refit à Julie le même compliment que le soir du bal. Le brave marquis était peu varié et le répétait à toutes les femmes, s'en étant bien trouvé une fois et jugeant depuis lors inutile de se mettre à de nouveaux frais. Julie regardait défiler les compagnies. Les maîtres avaient bonne figure sur leurs chevaux unis ou pommelés. Les boutons d'argent brillaient au soleil sur le drap bleu à revers aurore. Les petits sacs de veau vernis, vulgairement appelés crapauds et qui contenaient les cheveux en leurs bourses de cuir, tressautaient sur les nuques hâlées. Les chapeaux à quatre cornes coiffaient des figures martiales. Elle souriait aux officiers avec lesquels elle avait dansé à mesure qu'ils passaient. Porte-bise vint en queue, car Gros Ami commandait la dernière compagnie et il s'approcha à son tour du carrosse en faisant caracoler son beau cheval rouan. Julie vit une fois encore sa large figure rougeaude, aux paupières plissées, à la bouche alourdie, avec le grand nez hardi et les yeux vifs. Elle se tenait accoudée à la portière, une rose au corsage, comme celle qu'elle portait dans le Bosquet de Charmilles, et, comme Porte-bise prenait congé d'elle, elle lui tendit, avec un frais éclat de rire, la fleur qui s'effeuilla à demi. Porte-bise la prit et la mit négligemment à la ganse de son chapeau. Mademoiselle de Mauceuil sentait sur son visage le souffle chaud du cheval impatient que son cavalier avait peine à maîtriser. Puis, dans un « Au revoir, Mademoiselle Julie », coupé du sifflement d'une cravache, elle vit la monture pivoter et, cabré, les sabots hauts et la croupe basse, Monsieur de Porte-bise, l'enlevant d'un galop, rejoindre son rang sans retourner la tête. Quand M. Dufresnay revint fort triste de Pontaubel, où il laissait pour 3 mois Julie aux mains de Madame de Galando, il trouva sa femme qui l'attendait et le mena sans rien dire dans la chambre de Mademoiselle de Mauceuil. Elle était vide et déjà remise en ordre, les armoires refermées et le lit refait, et, une fois là, Madame Dufresnay souleva l'oreiller. Un petit livre était posé sur le drap blanc. M. Dufresnay prit la brochure et l'ouvrit distraitement. Elle était couverte de taches et imprimée sur un mauvais papier, comme ces recueils des contes de l'Amerloi que vendent les colporteurs. Il en lut quelques pages. À mesure qu'il lisait, sa figure exprimait un étonnement stupéfait. Puis, joignant les mains, il laissa tomber la brochure, qui resta ouverte sur le plancher, à son titre qui portait en grosses lettres « Le conseiller des amants ». Et au-dessous d'un fleuron en corbeille, et le Théropolis, l'an 2000. Mais la surprise de M. Dufresnay redoubla quand sa femme lui tendit une gravure où il vit, dans un paysage agréable, un berger et une bergère renversés sur un tertre parmi des houlettes et des panetières et en posture de faire l'amour si au naturel qu'on y perdait la vue de rien, et au bas, d'une grosse écriture qu'ils connaissaient bien et qu'ils reconnurent, ces mots tracés plusieurs fois, « Chère Julie, que n'en ferons-nous autant ?»